Emmanuel Crostet, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous retrouvons pour une deuxième émission sur l'écologie intégrale. De quel thème allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, nous allons parler du préambule de l'encyclique pour introduire donc les 7 chapitres de l'encyclique Laudato Si.
Nous vous écoutons.
Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pourquoi un préambule ? C'est uniquement pour nous permettre de comprendre finalement les enjeux de ce petit livre et comprendre surtout pourquoi il est capital que l'Église agisse en faveur de l'environnement au sens large du terme, l'environnement social, l'environnement naturel. Il est important de noter que dans son préambule, le pape François se réfère à l'héritage de ses prédécesseurs sur le thème de l'écologie. En effet, ce n'est pas le pape François qui a commencé à travailler, à réfléchir sur des questions d'écologie, mais il y a toute une histoire longue de 50 ans qui ont été introduites par ces différents papes. En premier lieu, le pape Jean XXIII, puis Paul VI, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, n'ont tous eu de cesse d'exhorter à une réelle conversion. Il y a plus de 50 ans donc, quand le monde vacillait au bord d'une crise nucléaire, le pape Saint Jean XXIII a écrit une encyclique dans laquelle il ne se contentait pas de rejeter la guerre. Il a voulu transmettre une proposition de paix. Alors il a adressé son message Pacem in Terris aux fidèles de l'univers, tout entier. Puis il ajoutait un message qui est dédié à tous les hommes de bonne volonté. À présent, face à la détérioration globale de l'environnement, le pape s'adresse à chaque personne qui habite cette planète, à chacun, chacune d'entre nous. Dans son exhortation Evangelii Gaudium, il a écrit aux membres de l'Église en vue d'engager un processus de réforme missionnaire encore en cours. Et dans l'Église, dans l'encyclique Laudato Si, il se propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Huit ans après Pacem in Terris, en 71, le bienheureux pape Paul VI s'est référé à la problématique écologique en la présentant comme une crise qui est, je cite, « une conséquence dramatique » de l'activité sans contrôle de l'air humain. Par une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Il parle également à la FAO de la possibilité de l'effet des retombées de la civilisation industrielle qui risque de conduire à une véritable catastrophe écologique, en soulignant l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité. Parce que, je cite, « les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s'accompagnent pas d'une authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. » Puis Saint Jean-Paul II, dans sa première encyclique, a prévenu que l'être humain ne semble percevoir d'autre signification de son milieu naturel que celle de servir à un usage et à une consommation dans l'immédiat. Par la suite, il a appelé à une conversion écologique globale en faisant remarquer que l'on s'y engageait trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. Le pape François nous le rappelait, je cite, « la destruction de l'environnement humain est très grave, parce que non seulement Dieu a confié le monde à l'être humain, mais encore la vie de celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. » Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine, mais il doit aussi prêter attention au monde naturel et tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système. Par conséquent, la capacité propre à l'être humain de transformer la réalité doit se développer sur la base du don des choses faites par Dieu à l'origine. Plus récemment, Benoît XVI a renouvelé l'invitation à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Il a rappelé qu'on ne peut pas analyser le monde seulement en isolant l'un de ses aspects, parce que le livre de la nature est unique et indivisible, et inclut entre autres l'environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Le pape Benoît nous a encore proposé de reconnaître que l'environnement naturel est parsemé de blessures causées par nous-mêmes, par notre comportement irresponsable. L'environnement social a lui aussi ses blessures. Mais toutes, au fond, sont dues au même mal, c'est-à-dire l'idée qu'il n'existe pas de vérités indiscutables qui guident nos vies, et donc que la liberté humaine n'a pas de limite. On oublie que, je cite, « l'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. » Avec une paternelle préoccupation, le pape Benoît nous invite à réaliser que la création subit des préjudices là où nous sommes, les dernières instances, où tout est simplement notre propriété, que nous consommons uniquement pour nous-mêmes. Et le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais nous ne voyons plus que nous-mêmes. Ces apports donc de ces différents papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes et théologiens et organisations sociales qui ont enrichi pendant des siècles la pensée de l'Église sur ces questions. Mais je cite encore le pape François, « Nous ne pouvons pas ignorer qu'outre l'Église catholique, d'autres églises et communautés chrétiennes, comme aussi d'autres religions, on nourrit une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. En d'autres termes, il faut pouvoir sortir de nos sérails et voir ce qu'il se passe ailleurs, dans d'autres religions, d'autres sphères. Alors, nous revoilà dans ce studio 5 ans après pour en reparler. 5 longues années. Qu'avons-nous fait ? On pourrait répondre à cette question de Jésus. Qu'as-tu fait de ta maison commune? Qu'as-tu fait de ta responsabilité pour protéger ma création? Alors certes, cela peut sembler décourageant. Mais rappelez-vous, il y a un an, en novembre 2019, il y a eu une conférence épiscopale des évêques de France. Les évêques se sont réunis pour réfléchir à l'urgence d'une conversion écologique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la première fois, des laïcs ont été invités à réfléchir avec les évêques. Laïcs et clercs, tous ensemble dans le même bateau. Alors certes, nous avons dû attendre 5 ans, mais qu'est-ce que 5 ans dans l'histoire de l'humanité ? Et puis, autre bonne nouvelle, dans quelques jours, nous y retournerons à Lourdes pour continuer cette réflexion. En novembre prochain, nous allons travailler sur l'agroécologie, l'agriculture durable, la permaculture. Comment l'agriculture est au service de l'homme, au service de la nature. J'aurai ainsi la joie d'accompagner une seconde fois Monseigneur pour travailler ces questions. Et ensuite, essayer de travailler sur un diocèse vert, comme le souhaite Monseigneur Ray. ces grands rassemblements portent-ils des fruits? En fait, il ne faut rien attendre des grands rassemblements, rien attendre d'une encyclique, rien attendre de textes fondateurs, si nous, à notre niveau, nous ne nous engageons pas. Qu'avons-nous fait de notre frère? C'est à cette question que tous nous devons réfléchir en préambule pour lire d'une manière responsable l'encyclique Laudato Si. Sinon, ce ne sera qu'une encyclique de plus, et le temps passera. Je me propose de vous faire un bref retour sur ce qui s'est dit l'année dernière lors de la conférence épiscopale des évêques de France réunie à Lourdes. En effet, en guise de préambule à cette encyclique, nous avons travaillé avec divers acteurs pour mettre Laudato Si en acte au cœur de nos paroisses, au cœur de nos diocèses, au cœur de nos familles, de nos associations, de nos structures. Je cite Mgr Moulin-Beaufort lors de son discours d'ouverture à la conférence. Notre époque restera dans l'histoire comme celle où l'humanité a pris conscience des limites des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de production et de consommation, c'est-à-dire des modes de vie. Je répète, puisque c'est très important, notre époque restera dans l'histoire comme celle de l'humanité, où celle de l'humanité a pris conscience des limites et des ressources de la planète. Comment est-ce que nous prenons conscience des limites de notre planète? Comment est-ce que, dans mon quotidien, le matin, quand je me lève, le soir, quand je me couche, nous avons pris conscience que nous avons outrepassé nos limites, et par là même, les limites de notre Terre? Comment en sortira-t-elle, cette Terre? Nous le verrons, nous propose Mgr Beaufort. Elena Lacida, la théologienne, est ensuite intervenue pour nous dire qu'il y a eu une création d'un commun suite à ces quelques jours passés ensemble à Lourdes. Les évêques et les laïcs ne pourront plus dire « nous ne savions pas ». Ainsi, il y a une responsabilité commune à assumer maintenant. Alors, trois pistes de réflexion pour transformer ces menaces en promesses. Trois pistes pour passer de l'angoisse à l'espérance. Tout d'abord, Elena Lacida nous propose une piste pour expérimenter. Il s'agit de développer notre capacité à se laisser déplacer, à accepter finalement de se tromper, initier des processus de conversion écologique. Une expérience de crise ouvre le champ d'une expérience de collaboration. La douleur fait partie du vivant, ne la rejetons pas. C'est la recherche, et dans la recherche, on a le droit de se tromper. On expérimente notre impact environnemental. On expérimente de se laisser déplacer et interpeller par d'autres. La deuxième piste de réflexion est la joie. Une joie malgré les difficultés. La contrainte, la crise écologique, la contrainte peut être désirable, car elle provoque l'innovation. Nous sommes obligés d'innover au risque de périr. Et la conversion écologique peut aller de pair avec joie et espérance. Enfin, après l'expérimentation, la joie, nous avons la communion. Il s'agit de créer de nouvelles manières de vivre ensemble. Une nouvelle manière de vivre, de faire du commun. Travailler notre relation à nos modes de vie. Quels sont nos impacts? Avec l'environnement, certes, mais avec nos voisins, nos familles. Penser à ce que nos choix de mode de vie impliquent au sens élargi. Quel est notre prochain? Notre prochain est-il notre frère? Nos parents, nos voisins, mais également ces Indiens, ces Bangladais, qui travaillent dans des ateliers très risqués. Ils travaillent pour fabriquer des pulls, des pantalons. Et nous, nous les consommons, nous achetons ces effets à bas prix. Quel est le prochain? Mon prochain se situe à côté de chez moi, certes, mais avec la mondialisation, il est également à l'autre bout du monde. Notre impact est réel. Alors, Fabien Revol, qui est également théologien, intervient pour parler de l'entraide, la coopération face à ces nouveaux défis. Une coopération pour aller au-delà de la peur, au-delà finalement du renfermement. Il s'agit donc de voir cette écologie comme finalement une logique d'espérance. Le message de collapsing, vous savez, cette fin du monde que certains nous prédisent dans quelques années. Ces messages catastrophiques font peur aux catholiques et à tout le monde. Mais cela paraît en contradiction finalement avec le message d'espérance prôné par l'Église depuis des siècles. Mais la collapsologie n'est pas que synonyme de catastrophe. Elle est aussi synonyme d'espérance, de renouveau, si le grain ne meurt. Et puis, il intervient en nous proposant de réfléchir à tous ces chiffres, toutes ces thèses, tous ces livres. Et si tout ceci était faux? Finalement, il n'y a pas besoin que cela soit vrai pour que l'on s'y mette. C'est finalement le pari de Pascal revisité. La crise environnementale n'est pas pour rien dans le lien qu'on maintient les catholiques avec la nature. Il a fallu cette urgence pour que l'on s'y penche avec attention. Voir ainsi la crise écologique comme une théologie du sens et de la révélation. Finalement, s'engager en écologie, c'est comme contribuer à créer du mieux dans le monde et ainsi à participer à la co-création, à être co-créateur. Alors, il s'agit de nous interroger quelle place de Dieu dans la nature et à prendre conscience qu'il y a aussi un risque de paganisme dans ces mondes écolos. Est-ce que c'est une nouvelle hérésie du XXIe siècle? Revenons à Laudato si, avec le pape François qui insiste sur la subsidiarité et l'échelon local pour faire évoluer nos mentalités. Il nous dit que parier sur les grandes instances, sur les directives européennes, les conférences internationales sont un petit peu, certes, c'est intéressant de s'y pencher, mais ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est comment nous transcendons ces grandes directives. Comment est-ce que sur notre palier nous pouvons être des saints? Et il est intéressant de noter que dans sa toute nouvelle encyclique, Fratelli Tutti, il complète sa vision en parlant de l'ouverture à l'autre. Je le cite, « Il n'est pas possible d'être local, de manière saine, sans une ouverture sincère et avenante à l'universel, sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, sans se laisser enrichir par d'autres cultures, ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples. Je parlais tout à l'heure du prochain, du palier, mais de l'Indien qui fabriquait des vêtements. Il y a 6000 kilomètres qui nous séparent entre l'Inde et la France. Et c'est étonnant de noter que lorsqu'un immeuble s'écroule au bout du monde, en Inde, avec des tas de morts, lorsqu'il y a des attentats à l'autre bout du monde, nous écoutons cela de manière distraite à la radio, sans que cela nous fasse tressaillir au fond de nous-mêmes. Alors qu'un chien écrasé devant nous, finalement, nous ressaisir, on tressaille, on ressent une émotion. Alors qu'entre un chien et une catastrophe humanitaire, il n'y a pas de lien. Le pape nous invite à demander le don des larmes pour que notre prochain, proche ou lointain, soit dans notre cœur proche. Mais cela n'est pas naturel, cela est extraordinaire, surnaturel. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être touchés, pour pleurer ces personnes que nous ne connaissons pas. C'est ça, tous frères, c'est être capable de pleurer. Alors, je me pose à moi-même la question, comment imaginer être frère de mon voisin, frère des Indiens, frère de la nature, dans ma vie quotidienne, aujourd'hui? Après avoir parlé avec vous dans ce studio, comment pourrais-je faire pour être en cohérence avec l'exhortation du pape? Il nous adresse un appel, notre pape. Je le cite. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de notre planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Je répète, j'adresse une invitation urgente sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Alors, c'est vrai que ce sont des mots. Moi, je lis cette encyclique. Ça fait quoi, 200 pages, 250 pages? La tentation est grande de se dire au fond de soi-même, c'est une belle invitation, c'est une belle exhortation. Mais comment est-ce qu'elle me parle? Qu'as-tu fait de ton frère? Comment y répondons-nous concrètement? J'aurais voulu poser cette question à Mgr Rey. Parlez-nous de votre conversion écologique. Nous connaissons sa conversion en tant que père, évêque, mais il est aussi intéressant de connaître la conversion écologique de ceux qui nous guident. Juste avant l'encyclique Laudato Si, Mgr Rey a édité un livre « Peut-on être écolo et catho ?» Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous encourage à le lire pour essayer de comprendre comment le fait écologique est un fait intégrant, un lien qui nous unit. On ne peut décemment être, on ne peut pas être catholique et non écolo. Ça s'appelle l'écologie intégrale. Qu'as-tu fait de ton frère en termes social? Qu'as-tu fait de ton frère en termes naturels, la nature? Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre concrètement à cette question, à cette invitation urgente de notre pape pour travailler un dialogue avec celles et ceux qui construisent l'avenir de la planète. Le fait de s'inscrire dans une histoire, on l'a vu tout à l'heure, une 50 ans d'histoire de pape, est très important pour le pape François. Ces apports des papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales, comme on l'avait dit. Mais si le pape a pris cette peine de travailler, d'aller au-delà de son cercle, de se laisser déplacer, nous, il nous exhorte aussi à aller au-delà de notre confort, à inventer d'autres styles de vie. C'est important puisque c'est nous les acteurs du changement, comme l'a dit le pape François, c'est l'échelon local qui fera la différence. Le pape indique également, je le cite, donc dans la présente encyclique, Laudato Si, je me propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Il est intéressant de noter que cette encyclique donc, ne s'adresse pas, on l'a dit, qu'aux catholiques, mais à toute personne de bonne volonté. Alors, par cette petite ligne, je me propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Finalement, il nous invite à dialoguer avec nos frères et nos sœurs sur cette question d'écologie intégrale. Connaissons-nous des protestants, connaissons-nous des orthodoxes, des musulmans, des juifs? Dans les livres saints de ces religions, sont faits mention de protection de l'environnement. Et il est intéressant, environnement social, environnement naturel, il est intéressant de confronter avec les uns et les autres pour ne pas céder à la tentation du repli et de la peur. Le pape nous parle de l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Dans la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, qui complète Laudato Si, je cite, « Le grand imam Ahmad al-Tayeb et moi-même n'ignorons pas les avancées positives qui ont été réalisées dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'industrie et du bien-être, en particulier dans les pays développés. Cependant, nous soulignons que, avec ces progrès historiques grands et appréciés, se vérifie une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir. Vous verrez dans les prochaines émissions, que dont Laudato Si, il nous indique que la technique n'est pas neutre. Et là, il réitère avec cette pensée en nous appelant à une responsabilité par rapport à notre consommation et à nos habitudes par rapport à la technique. Dans Fratelli Tutti, le pape continue « Comme nous sommes tous omnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. » Et malheureusement, donc fin de citation, « malheureusement la crise environnementale touchera toujours les pauvres en premier. » Et il rajoute « il y a aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels. » Je suis tenté de dire individualiste. Si le droit de chacun n'est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand, il finit par se concevoir comme sans limite et par conséquent devenir source de conflits et de violences. C'est intéressant de lire Fratelli Tutti après Laudato Si, parce qu'il enfonce vraiment la question du social. Et il nous demande « à qui t'identifies-tu » en prenant l'exemple du bon samaritain. Est-ce qu'on s'identifie aux brigands, aux lévites et aux prêtres qui passent à côté, ou bien aux samaritains? Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de notre société. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Voici le lien entre la nature et le social. Nous ne pouvons pas considérer la nature sans considérer l'homme. Pour conclure, je voudrais vous citer cette interpellation de Mgr Moulin-Beaufort à l'issue de la conférence épiscopale des évêques de France en novembre dernier. Je cite « Et nous, que disons-nous en ce temps? Qu'avons-nous à dire, nous, disciples du Christ ?» Grâce en soit rendue au pape François, nous avons Laudato Si. Mais qu'en faisons-nous? Avons-nous pris la mesure des richesses que cette encyclique contient? Que disons-nous aux jeunes qui auront à vivre dans un tout autre monde que celui des Trente Glorieuses qui a vu grandir la plupart des évêques? Je vous laisse avec cette interpellation et nous, que disons-nous en ce temps? Avons-nous pris la mesure des richesses que cette encyclique contient?
Emmanuel Grosstedt, j'ai bien compris, ce qui est important, c'est ce que nous pouvons faire à titre individuel, là où nous sommes, plus que les grands discours ou les grandes manifestations. Vous parliez du Bangladesh et de l'Inde, qui sont des pays où malheureusement, les habitants sont surexploités, notamment pour l'industrie textile, dont nos pays occidentaux est si friande. Nos sociétés occidentales sont très friandes de tout ce qui est ces vêtements achetés en masse à bas prix. Je me souviens, il y a peut-être un an ou deux, d'un reportage qui montrait justement en Inde des personnes qui travaillaient dans le textile et notamment dans la teinture des tissus. Et à cause des produits employés qui sont interdits hein, en Occident, mais par contre que les grandes marques ferment les yeux sur l'utilisation de ces produits dans des pays comme l'Inde, ces produits développent des cancers, y compris chez des enfants. Les enfants donc qui habitent à côté justement de ces usines. Je vais montrer l'exemple pour les auditeurs, après aux auditeurs à donner leur témoignage. Je n'achète plus de vêtements si j'en ai pas besoin et je vais donner la priorité, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques mois, aux vêtements d'occasion achetés en friperie plutôt que d'acheter des vêtements neufs.
Tout à fait. Et c'est une belle initiative puisqu'elle est, elle est facilement envisageable rapidement. On est toujours démunis pour savoir comment agir concrètement.
Alors nous avons reçu un message d'Isabelle. Merci encore de votre émission qui est très utile pour aider à la prise de conscience de la nécessité d'une écologie totale et intégrale. Que pensez-vous de la décision du gouvernement de réintroduire les... Alors, je vais prendre mon élan pour dire le mot néonicotinoïde pour la culture de la betterave. Comment ne pas se décourager face aux aberrations de nos politiques? Merci à vous. Dieu vous bénisse. Isabelle.
Merci Isabelle. Alors, c'est une question effectivement à laquelle je n'ai pas de réponse. Je me suis posé aussi la question. C'est toujours la recherche du bien commun. D'un côté, les agriculteurs de betteraves qui ne peuvent pas, sans ce pesticide, avoir des rendements suffisants pour faire vivre leur famille et payer les salariés. De l'autre, un bien commun qui pâtit de ces pesticides. Il y aura des pleurs et des grincements de dents dans la transition écologique. Et le problème réside dans le fait de mettre le curseur plus vers son prochain proche ou encore vers le prochain plus éloigné. C'est une gestion de risque. En tout cas, avec ou sans pesticides, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut juste savoir vers qui on souhaite que ces pleurs et ces grincements de dents s'adressent. Je n'ai pas malheureusement de réponse. Parfois, j'ai tendance à être désespéré. C'est pourquoi je m'accroche à l'espérance que nous demande d'avoir le pape François à ce sujet.
D'ailleurs, je crois qu'il est question, certaines personnes, et je pense en particulier au père Christophe Baublat qui faisait des émissions sur l'écologie l'année dernière, on parle de conversion écologique, c'est-à-dire c'est pas forcément parce qu'on fait ce qui est aussi humainement possible avec nos limites, c'est pas forcément un changement radical de comportement. On va pas passer de tout noir à tout blanc d'un coup de baguette magique, mais de commencer à prendre des petites habitudes et augmenter les habitudes de manière à ensuite aller vers plus d'écologie.
Alors en ski de randonnée, une conversion, c'est quand on gravit de montagne. Donc là, on est sur le glacier, il faut qu'on aille à la montagne. Et pour gravir la montagne, on ne peut pas aller tout droit en ski de randonnée, sinon on glisse. Alors on est obligé de faire des conversions dans la montagne. Donc de droite, gauche, gauche, droite. Donc fondamentalement, conversion, c'est radical. En revanche, comme vous l'avez très justement dit, on ne peut pas demander de faire cette conversion en un seul jour. Donc il faut plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, selon le caractère, les structures, etc. Mais in fine, il faut arriver à cette conversion radicale de passer de noir à blanc ou de blanc à noir, peu importe. Mais il faut prendre du temps, sinon on casse la machine, on se casse soi-même, on désespère de soi-même.
Alors justement, est-ce que vous avez peut-être des petits conseils, des idées justement de ce qu'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien pour aller vers cette conversion écologique?
Alors, il y a des choses toutes bêtes. Hein. Je fais beaucoup de formations auprès des jeunes lycéens par rapport au gaspillage de l'eau. Je leur demande de mettre un chronomètre pour se chronométrer quand ils se douchent. Parfois, ils se douchent pendant une demi-heure, alors je leur dis, vous mettez le chronomètre, non pas à 30 minutes, mais à 28 minutes. Ou bien, pour aller faire ses courses, peut-être penser à réutiliser les sacs plastiques que l'on prend, ou bien faire le tri d'une manière un petit peu plus cohérente, ou acheter, éviter d'acheter du suremballage. C'est plein de petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui font partie du processus pédagogique de conversion. Et in fine, alors, on pourra ne plus passer de voiture ou autre, mais ça, c'est pas la finalité. C'est commencer par les petites touches qui ne nous empêchent pas de vivre, sinon ça ne fonctionne pas.
Oui, par exemple, pour la réutilisation des sacs, ce qu'on peut faire quand on achète, par exemple, en boulangerie, un gros pain et que du coup, on a un grand sac en papier, on peut réutiliser ce sac en papier pour l'achat des fruits et légumes et éviter d'utiliser un sac en papier tout neuf fourni par le marchand.
Oui, tout à fait, ou même prendre des sacs en tissu. Il y a plein de petites choses. Si vous regardez, en fait, il faut commencer par analyser une journée type, quelles sont nos habitudes, quels sont nos comportements d'achat, etc. Et ensuite décortiquer une petite action, toute petite. On fait le bilan, c'est bon, ça fonctionne pas, ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et si ensuite ça nous handicape pas trop dans notre manière de vivre, parce qu'on est tous pressurisés par le temps, on a d'autres choses à faire, alors on passe à autre. Mais il faut vraiment ne pas avoir peur de commencer petitement, et une goutte plus une goutte, ça forme un océan, nous dit Sainte Mère Thérèse.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Grosstedt pour cette émission. Nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose pour terminer?
Je voudrais rester sur une question, la question du pape. Laisserons-nous, gisant à terre, l'homme agressé pour courir chacun nous mettre à l'abri de la violence? Voilà, je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que l'on fait de notre frère?
Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.